La Suisse doit se préparer au changement climatique pendant qu'il est encore temps. Quelques jours après l'éboulement de Bondo au Grison, la Confédération a fait le point lundi sur la situation et sur les initiatives lancées dans le pays pour prévenir les catastrophes. Place Publique reçoit dans un instant pour en parler la climatologue Martine Rebeté. Il sera aussi question de la meilleure méthode pour assurer le développement économique de notre région à l'heure où des pontes de la promotion économique suisse se sont réunies à Neuchâtel. Enfin, nous vous proposons un débat sur le vote de la commune de Sorvilliers prévu le 17 septembre, 3 mois après Moutier. Les citoyens de Sorvilliers qui doivent décider s'ils veulent rejoindre eux aussi le canton du Jura.
Jusqu'à 19h, place publique. Gabriel Devecq.
Bonsoir à tous. Et si l'éboulement de Bondo au Grison n'était qu'un début, la Confédération a lancé lundi un avertissement. En raison du réchauffement climatique, les dégâts vont devenir toujours plus fréquents en Suisse. Fonte des glaciers, flancs de montagnes instables, canicules à répétition, pénurie d'eau. Pour minimiser les risques, plusieurs initiatives ont été lancées et des études sont en cours pour cerner justement les impacts de ce réchauffement dans les régions. Et pour en parler, nous avons rencontré tout à l'heure Martine Rebeté, professeure de climatologie à l'Université de Neuchâtel, ainsi qu'à l'Institut fédéral de recherche WSL. Martine Rebeté, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, ce n'est pas une nouveauté, mais ça nous est redit cette semaine. La Suisse est particulièrement touchée par le réchauffement climatique, d'une ampleur 2 fois plus élevée que la hausse moyenne mondiale, en tout cas au niveau de la température, plus 2 degrés depuis plus de 150 ans. Qu'est-ce que ça signifie dans les faits ?
Alors, en fait, ça signifie 2 choses. Premièrement, les températures augmentent en Suisse 2 fois plus rapidement qu'en moyenne mondiale. Ça, c'est quelque chose qui est établi depuis passablement de temps maintenant. Mais ça signifie aussi que la Suisse est très vulnérable de nombreux points de vue par rapport aux conséquences du changement climatique.
Est-ce que les événements de Bondo en sont une illustration ?
Oui, absolument. Ce que nous avons vu ces derniers jours, c'est typiquement un phénomène qui survient dans les périodes où les températures augmentent, donc où on a la disparition des glaciers et la disparition du pergélisol, ou en tout cas la réduction des glaciers, la réduction du pergélisol, avec de nombreuses conséquences sur les flancs des montagnes qui sont déstabilisés, qui peuvent ensuite occasionner, comme on a vu, jusqu'à des laves torrentielles. Et ça met en danger les régions de montagne, mais les laves torrentielles peuvent arriver jusqu'en plaine, et c'est quelque chose qu'on a déjà vu.
Donc pas d'alarmisme exagéré du côté de la Confédération, tout simplement la réalité, ce genre d'événement risque de se multiplier, il faut prendre des mesures.
Oui, c'est quelque chose qui se fait déjà depuis de nombreuses années, mais dans un pays alpin, ces mesures doivent être prises à très large échelle et ça coûte extrêmement cher, ça prend du temps. Or, le changement climatique intervient très très rapidement, donc c'est une course contre la montre.
On a parlé souvent, quand l'hiver survient, de l'enneigement insuffisant dans les stations de moyenne montagne, ça va devenir une réalité de plus en plus fréquente, on a parlé de la fonte des glaciers, là on s'attaque à des problèmes d'une ampleur monstrueuse, hein, potentiellement.
Dans le sens où on parle de la vie et de la santé de la population. Effectivement, on est sur des problèmes qui se placent à une autre échelle. On n'est plus sur une question de loisirs ou de rentabilité du tourisme, hein, même si tout cela reste, tout ce qui concerne ces domaines-là, reste toujours plus préoccupant.
Et on le voit, ce n'est pas seulement les régions de montagne qui sont concernées par ce réchauffement climatique. Il y a les régions de plaine, il y a aussi l'arc jurassien qui est concerné. On l'a vu aussi avec ces plantes canicules, on le voit aussi avec les mesures contre la sécheresse, ou encore dans la manière d'aménager la végétation dans les villes. Il y a des enjeux à tous les niveaux et dans toutes les régions en Suisse.
Oui, en pleine, la question de la canicule va être de plus en plus urgente parce qu'on a une vraie souffrance et une mortalité de la population dans les périodes où il fait très chaud. Nos bâtiments sont mal adaptés pour faire face à des fortes chaleurs. Ils sont mieux adaptés pour gérer le froid, mais en même temps, une bonne isolation contre le froid est aussi utile contre le chaud. Donc on a énormément à faire de ce côté, dans l'aménagement des bâtiments et dans l'aménagement des villes aussi.
Berne, on a fait l'expérience, certaines essences, certains arbres ne sont plus adaptés aux températures actuelles, même si elles vont encore augmenter. Ça veut dire qu'il va falloir planter d'autres arbres, d'autres plantes pour pouvoir aussi contenir l'augmentation des températures. Ça passe aussi par ce genre de mesures.
Oui, et c'est pas du tout simple, parce que il nous faut quand même avoir des essences qui supportent la rudesse de notre climat hivernal. Malgré tout, on a des périodes où il peut faire très froid. On a des printemps aussi où on a un risque de gel. Et puis, on a des situations de sécheresse qui sont de plus en plus importantes. Donc, il faut à la fois avoir des espèces végétales qui résistent à notre climat. Et en ville, les arbres sont mis à rude épreuve avec le bétonnage, le peu de place, la salinisation, etc. Donc, on a un problème pour les arbres eux-mêmes. Et ensuite, on a des espèces d'arbres qui offrent davantage de fraîcheur, un meilleur ombrage que d'autres. Donc, les choix doivent répondre à des critères multiples. En outre, pour chaque ville, ce sera différent parce que ça dépend des circonstances et de la géographie de chaque ville qui est particulière. Surtout en Suisse, une ville au pied du Jura, ce n'est pas la même chose qu'une ville ailleurs.
Dans les villes, s'il n'y a pas de végétation qui pousse, le réchauffement est encore plus accru.
Oui, on observe de grandes différences de température en ville selon plusieurs critères. Et ce qui fait la différence, c'est beaucoup la présence de végétation et aussi la présence de plans d'eau ou de rivières qui apportent la fraîcheur. La présence des lacs chez nous, bien sûr, est quelque chose de précieux. Encore faut-il que la circulation de l'air permette aussi le rafraîchissement. Et puis on a toute l'absorption de la chaleur par les surfaces construites qui peut aussi être améliorée avec de la végétation, avec différentes mesures aussi qui concernent ces surfaces, la couleur de ces surfaces où on peut agir pour vraiment réduire de plusieurs degrés. Et lorsqu'il fait extrêmement chaud, la différence tient à 2 ou 3 degrés.
On le voit bien, il y a des mesures de types différents et d'ampleurs différentes qui peuvent être prises, et cela à tous les niveaux, hein, au niveau de la Confédération, au niveau des régions, des cantons, des villes, même des entreprises ou de tout un chacun.
C'est juste, il y a énormément à faire. Et c'est très malheureux de voir qu'on se dirige vers des coûts, vers des problèmes de santé, vers des dégâts qui sont d'une ampleur extrêmement importante. Tout ça parce qu'on n'a pas voulu, parce qu'on n'a pas su prendre les mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre. On le fera et ça permettra de réduire dans une certaine mesure l'ampleur du réchauffement climatique, mais on a déjà émis beaucoup de gaz à effet de serre et le réchauffement est déjà bien installé, malheureusement.
On a parlé des conséquences du réchauffement climatique au niveau environnemental, il y en a bien sûr, oui, au niveau économique et au niveau social. Parmi tous ces domaines, quelle est l'urgence où il faut agir?
Alors, il est absolument urgent de faire le virage vers des nouvelles énergies pour notre économie. Notre économie reste encore basée sur l'exploitation du pétrole et c'est quelque chose qui doit absolument changer et changer vite. Et ça doit se faire dans le respect des populations. Je pense par exemple à tous les problèmes qu'on rencontre dans le Jura avec les éoliennes. Là, les choses n'ont pas toujours été faites correctement, mais on doit passer aux énergies renouvelables, aux économies d'énergie. Les solutions techniques existent aujourd'hui et ça doit se faire vraiment extrêmement vite. C'est aussi une question de confort pour la population. Lorsqu'on n'aura plus de véhicules diesel, de véhicules à essence, on n'aura plus non plus de mortalité et de problèmes de santé liés à la pollution de l'air, par exemple, sans parler du bruit.
Donc pas seulement s'attaquer aux symptômes, mais aussi aux causes. Merci Martine Rebeté d'avoir répondu à nos questions et à bientôt dans Place Publique.
Gabriel Devecq.
Avec cette question, comment mieux promouvoir la place économique suisse ici et à l'étranger? Des experts ont planché sur cette question durant 3 jours à Neuchâtel, comme nous l'ont indiqué nos confrères de l'Express et l'Impartial. Ces experts qui ont pris part à un congrès annuel sous la bannière de la Switzerland Global Enterprise, une structure qui est chargée par la Confédération de faciliter l'implantation de sociétés étrangères sur notre territoire, mais aussi de trouver des débouchés internationaux pour les entreprises suisses. Alors l'occasion, dans Place Publique, de nous interroger sur la manière d'assurer le développement économique de notre région et d'assurer des emplois en nombre et en qualité. Deux invités pour en parler. Christian Barbier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chef du service de l'économie du canton de Neuchâtel, responsable de l'appui au développement économique cantonal. Vous êtes aussi président du comité de la plateforme GGBA, nom un peu barbare pour dire Great Geneva Bernarea, en fait qui, comme son nom l'indique peut-être à certains, assure la promotion économique des cantons de Suisse occidentale, Jura mis à part. Et Hugues Jeannerat est avec nous par téléphone, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue et géographe, spécialiste du développement économique régional à l'Université de Neuchâtel. On commence avec vous, Christian Barbier. Aujourd'hui, quand on évoque le développement économique au niveau régional, on est loin de la caricature qui veut que chaque canton tente à coups de cadeaux fiscaux d'attirer de grosses entreprises pourvoyeuses d'emplois, des entreprises qui, pour certaines, n'hésitent même pas à fermer boutique une fois les avantages consommés.
Oui, alors les clichés, on l'a vu dur. Alors effectivement, le paradigme, mais le monde a changé. Aujourd'hui, notre rôle, c'est surtout d'être un facilitateur pour l'économie, pour notre écosystème régional. Et cette région, l'arc jurassien au sens large, et la Suisse reste une place économique extrêmement attractive. Et notre rôle est vraiment de faciliter les opportunités, que ce soit à court terme, à moyen terme, ou renforcer certaines conditions cadres.
Alors, dans le descriptif que vous venez de nous faire, il n'est pas question forcément d'entreprises étrangères qu'il faudrait faire venir à tout prix.
Alors, effectivement, aujourd'hui, c'est comme pour toute entreprise, 80% de votre focus doit être sur le tissu existant. Et aujourd'hui, cette région a à peu près 180 000 habitants, environ une centaine de milliers d'emplois. Et ce qui est très important, c'est déjà de faciliter les sociétés qui continuent d'investir et qui sont ici depuis longtemps.
Juste un petit rappel, Christian Barbier, qu'est-ce qui a fait qu'on a changé, on peut dire, un peu de paradigme entre le moment où justement il s'agissait de faire venir des entreprises, on se souvient de ces entreprises américaines qui sont venues à Neuchâtel, on vous les ramène toujours, mais qu'est-ce qui a fait finalement qu'on ait changé de pratique et qu'on se soit recentré sur les PME existantes?
Oui, tout à fait. Alors déjà, Neuchâtel a été pionnier, mais il a été pionnier par une situation de crise. Il faut se remettre dans un contexte début des années 70, crise mondiale du pétrole, crise horlogère pour la Suisse. Et Neuchâtel, très dépendant dans son secteur horloger, a dû, à quelque part dans une situation d'urgence, tenter de trouver des mesures de renouvellement et de transformation de son tissu économique. Donc Neuchâtel a aujourd'hui 40 ans d'âge, on va dire, d'expérience et de maturité, qui est passé aussi par des cycles de crise, et qu'aujourd'hui, en fait, il est très important. Et c'est le rôle qu'a souhaité aussi le Conseil d'État ces 5 dernières années, c'est de se montrer en tant que sparring partner pour saisir les opportunités, donner confiance et que le canton et ses ensembles d'institutions puissent appuyer le développement économique.
Pour que ça parle encore plus à nos auditeurs, quel peut être un bon exemple, vraiment bannière de cette nouvelle politique, qui a quelques années, politique de promotion ou d'attractivité de notre canton?
Oui, alors il y a une nouvelle base légale qui a légitimé cette nouvelle stratégie en 2015, sans opposition du Grand Conseil, c'est à souligner. C'est assez rare dans cette région pour le souligner. Je dirais que des exemples concrets, c'est à peu près 400 mises en relation par année. C'est une centaine de projets où on donne une certaine impulsion. Ça peut être un appui à un salon international. Ça peut être, par exemple, la mise en relation sur des institutions qui puissent permettre d'offrir des services, que ce soit de coaching, que ce soit d'appui à des plans d'affaires, que ce soit des cautionnements sur des prêts, et aussi pour des micro-sociétés. Donc, il y a un des enjeux. L'enjeu, c'est de donner la visibilité des instruments à disposition. Et oui, les défis sont énormes. Les entreprises ont une capacité de résilience, mais on doit se montrer à l'écoute et trouver des solutions pour que ce tissu économique puisse se développer.
Hugues Jeannerat, on le sent, hein, plus question d'uniquement racoler à l'étranger. Le développement économique doit servir surtout les intérêts des entreprises présentes avec de multiples prestations. On en a entendu des exemples. Ce n'est pas pour autant qu'il faut délaisser les marchés internationaux. Ça a l'air d'être devenu compliqué, Hugues Jeannerat, de trouver le bon équilibre.
Alors effectivement, si on devait, vous citiez l'exemple du changement de paradigme, alors si on devait parler d'un changement de paradigme aujourd'hui, Monsieur Christian Barbier a utilisé le bon mot, c'est la question de la mise en relation. Puis la mise en relation, elle est effectivement la mise en relation entre entreprises, entre éventuellement institutions de recherche et de développement, entre acteurs locaux et acteurs internationaux. Et cette mise en relation, elle est très très importante. Et si, dans l'histoire, je crois que le développement endogène n'est pas nouveau, hein, il a toujours existé aussi en parallèle de politiques de promotion exogène tournée vers l'international. Aujourd'hui, l'enjeu est bien de mettre en relation ces deux stratégies de politique de développement régional.
Oui, alors tout à fait, je partage aussi l'analyse qui est faite. Disons que la Suisse reste un marché étroit de 8 millions d'habitants. L'Europe a près de 500 millions d'habitants. L'Asie, c'est plusieurs milliards, les États-Unis aussi. Donc, fondamentalement, si notre économie est basée sur un tissu exportateur, industriel, il est important d'aussi d'avoir des réflexions sur l'internationalisation, sur des plateformes. Et effectivement, là, Neuchâtel reste un laboratoire avec plusieurs initiatives qui ont été menées en collaboration, notamment avec les institutions fédérales que Switzerland Global Enterprise mène sur l'aide à l'exportation.
Ça veut dire que vous devez vous préoccuper de l'international dans le sens que vous devez trouver vous-même, par exemple, aussi des débouchés dans ces marchés en allant sur place.
Alors, si vous voulez, c'est toujours la question du in and out. Les sociétés neuchâteloises ou suisses ont besoin d'accéder à des marchés internationaux. Et puis, des sociétés internationales considèrent, et ça, c'est quand même un message important à rappeler, que la place économique suisse est attractive. C'est une des meilleures places économiques du monde. Elle est étroite, donc elle doit se positionner sur des projets de qualité. Donc pour reprendre votre question initiale, le changement de paradigme, il s'est aussi fait sur le fait qu'il est important de faire venir des sociétés non plus sur des logiques de privilèges, mais sur des logiques de cohérence et de complémentarité avec le territoire et les compétences historiques.
Et on le sent, on l'entend, on le comprend en vous écoutant, Christian Barbier, que l'échelle a changé. Hugues Genera, on ne parle plus maintenant seulement du canton de Neuchâtel, on parle de la Suisse comme un pays de 8 millions d'habitants, comme un ensemble. Du coup, on ne peut plus faire non plus la promotion d'un petit territoire à l'international. L'échelle aussi a changé.
Oui, alors tout à fait. Et puis cela ne veut pas dire que les cantons n'ont plus leur rôle, mais que la question de pouvoir agir à différentes échelles, comme l'a dit Christian Barbier, le drapeau suisse, la Suisse est elle-même vers l'extérieur un symbole d'attractivité et un signe d'attractivité. Donc il s'agit réellement de jouer sur ce symbole fort, sur cette garantie de qualité de nos entreprises, de nos produits, de notre innovation, etc. Donc là, la Suisse est réellement, et c'est ce que font déjà les entreprises suisses quand elles doivent exporter, elles mettent le drapeau suisse sur leurs produits. Donc là, la question n'est pas vraiment de savoir si le canton peut faire seul face à ces défis, mais bien de savoir comment il peut faire en complémentarité d'une part avec des instances au niveau suisse, mais aussi en complémentarité avec d'autres cantons sur d'autres thématiques. Mais peut-être ce qui est le plus important et qui, cette fois, dépasse clairement la frontière cantonale et qui n'est pas une question politique et qui pourrait vraiment être un enjeu rassembleur sur l'avenir, c'est effectivement, on parle beaucoup d'attractivité, mais on parle très peu encore de qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a attiré ces entreprises. Parce qu'effectivement, bon, on fait du démarchage qualitatif, on va chercher des entreprises qui passeraient le mieux avec notre écosystème, notre tissu économique, ainsi de suite. Mais une fois qu'elles sont là, il s'agit bien de pouvoir réseauter ces entreprises et qui viennent de l'extérieur, des multinationales, voire même peut-être même des start-up étrangères pour qu'elles se développent dans notre canton, dans notre région, dans l'arc jurassien, etc. Mais comment est-ce qu'elles peuvent bénéficier aux entreprises existantes? Et là, ce bénéfice doit vraiment être organisé au-delà des frontières cantonales. Et là, je pense notamment au Jura bernois, au Jura, au canton de Vaud. Là, les bénéfices sont à retirer pour tout le monde et cette organisation de ce qu'on appelle, nous, l'ancrage, doit être vraiment une priorité aujourd'hui intercantonale aussi.
Christian Barbier boit vos paroles, apparemment. Oui. C'est vrai, on va chercher ensemble en Suisse des entreprises importantes à l'étranger, des entreprises qui vont peut-être pas aboutir ou s'implanter exactement dans notre petit bout de pays, mais qui vont irriguer le tissu économique suisse, y compris notre région. C'est ça l'intérêt de travailler ensemble et de faire exister la Suisse.
Bon, la question clé, c'est la question de la taille critique. Aujourd'hui, la Suisse est 8 millions d'habitants, vous l'avez dit. La Suisse romande, c'est 1,5 million d'habitants. Si vous n'arrivez pas, à une échelle économique, à travailler en réseau et à renforcer des échelles de levier, je pense que là, on est resté au 19e siècle. Donc, ce qui est très important et ce qui a été fait ces 10 dernières années, c'est beaucoup de travail en collaboration avec les 7 cantons de Suisse occidentale, beaucoup d'initiatives de promotion, de valorisation. Donc, travail en réseau, c'est le monde de demain, la collaboration. Le deuxième point qui est fondamental, c'est que toute société, pour se développer, elle a besoin de compétences. Et les sociétés internationales qui viennent investir en Suisse ont les mêmes besoins qu'une société, une PME, une micro-société ou une grosse PME de Suisse, c'est de trouver un accès aux compétences en sus de compétences liées aux conditions cadres. Je dirais que les savoir-faire requis pour relever les enjeux de demain sont fondamentaux.
Donc vous nous rappelez que la Suisse romande est petite, que dire encore de l'arc jurassien ou du canton de Neuchâtel. Est-ce que pour autant, avec tous ces organes qui existent, toutes ces initiatives, qu'elles soient privées ou publiques, qui prospectent dans les marchés, qui essayent de vanter les qualités de notre système économique suisse, est-ce que dans tous ces acteurs, un canton comme celui de Neuchâtel s'y retrouve? Est-ce qu'on est sûr maintenant qu'avec ces initiatives, le canton de Neuchâtel existe face à Zurich par exemple et sa part du gâteau?
Bon, alors vu de la Suisse alémanique, je vous rassure, la Suisse romande n'existe quasiment pas. Donc il y a un vrai effort d'ouvrir des réseaux, y compris sous l'angle institutionnel. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, je pense qu'il faut travailler sur ses forces. Et Neuchâtel a une vision et un projet fédérateur, c'est de dire qu'on est une terre d'innovation, qu'on est capable ici, par un tissu économique industriel exportateur, plus vite qu'ailleurs et plus vite qu'ailleurs en Suisse, de transformer des idées en produits. C'est la vision autour de MicroCity.
Renforcer l'attractivité d'une région au niveau économique, développer les emplois. Hugues Jeannerat, on va conclure avec ça. Ça a l'air de plus en plus complexe. On travaille, on l'a bien compris, en réseau et plus tout seul. Il y a de multiples acteurs, difficile d'y voir clair. Est-ce qu'on peut, selon vous, en mesurer l'efficacité? Est-ce que, d'après vous, il y a des critères qui font que Neuchâtel et les autres cantons vont pouvoir s'y retrouver?
Alors effectivement, aujourd'hui, quand on parle de développement qualitatif, quand on parle de promotion exogène qualitative, quand on parle de croissance qualitative, c'est toute une série de nouveaux mots qui sont à la mode et qui sont par définition inquantifiables vu qu'ils sont qualitatifs. Donc effectivement, la grande difficulté aujourd'hui dans ces logiques de réseau, c'est de savoir quel est le bénéfice de ces retirer de ces réseaux. Je rappellerai pour l'anecdote qu'aujourd'hui, les bénéfices de Facebook ne sont pas si évidents. Donc, c'est une mise en réseau. Donc aujourd'hui, c'est un symptôme important de notre société par réseau qui est difficile à quantifier en termes de retombées directes. Par contre, ce qu'il est important de souligner, peut-être la manière dont on aura à moyen terme, parce que sur le court terme, je pense que les impacts sont très difficilement mesurables, c'est à moyen terme constater si le tissu, je pense qu'il est capable, le tissu économique du canton et de l'arc jurassien est capable de s'adapter sans essuyer la crise qu'il a connue dans les années 70-80 aux nouveaux enjeux grâce à ses réseaux et à exister dans ces réseaux globaux qui sont des réseaux de production, d'innovation et de production. Donc, sur cette capacité d'adaptabilité qui permettra de mesurer les effets réels de cette politique.
Nouvelle recette, nouveaux effets, on sera bien sûr attentif au destin de l'économie de notre région et de la manière de la promouvoir. Merci beaucoup Hugues Jeannerat et Christian Barbier d'avoir rejoint Place Publique. À bientôt et bonne suite de soirée.
Et bonne soirée.
Place Publique.
Le 17 septembre, beaucoup de regards seront tournés vers deux villages du Jura bernois et pour cause, Belpraon et Sorvilliers doivent choisir s'ils veulent changer de canton. Leurs citoyens vont voter pour rejoindre le canton du Jura ou rester dans le canton de Berne. 3 mois après Moutier, c'est dire que la question jurassienne s'invite à nouveau au cœur de l'actualité de notre région. La semaine dernière, dans Place Publique, nous avons posé les enjeux à Belpraon. Aujourd'hui, nous allons débattre de l'avenir de Sorvilliers avec deux invités. Tout d'abord, Sandro Bouchat, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes partisan du oui au départ de Sorvilliers dans le canton du Jura. Vous êtes membre aussi du conseil municipal de la commune. Et Otto Abegger avec vous, bonsoir.
Bonsoir.
Monsieur Abegger, vous êtes partisan du maintien de Sorvilliers dans le canton de Berne. On va commencer avec vous. Pour vous, c'est rien de moins que l'unité de la vallée qui est en jeu. Ce qui vous frappe et ce qui vous dérange, c'est que si Sorvilliers rejoint le Jura, eh bien c'est la création de nouvelles frontières, d'une enclave pour être clair.
Oui, tout à fait. Donc, notre village se situe au centre de la vallée de Tavannes. Nous sommes liés avec nos communes voisines qui sont Valbuirs, Cours et Champeau, les villages qui nous entourent. Et nous avons des liens étroits avec ces communes. Et je trouve qu'il est vraiment dommageable si le village de Sorvillers se rallierait au canton du Jura.
Sandro Bouchat, vous l'entendez, on crée des frontières. Si on rejoint le Jura, c'est manifestement pas dans les mentalités du 21e siècle, c'est pas un signe d'ouverture.
Alors, ça dépend ce que vous appelez mentalité du 21e siècle. À l'heure actuelle, je devrais dire, et comme j'en suis part de certains syndicats et d'organisations au travers de la commune, on voit quand même que la classe politique a changé depuis les années 70, elle s'est rajeunie, c'est une nouvelle génération d'hommes politiques, d'hommes et de femmes politiques, et on sent que tous ces discours, ils sont quand même constructifs. Il y a un pragmatisme qui règne dans tous ces organismes, ces exécutifs, ces syndicats, et etc. Et une fois passé le domaine de l'émotion, l'émotionnel, oui, la question Jura bien, etc. On voit que tout le monde s'attelle à résoudre les problèmes et à travailler main dans la main. On lisse un peu les clivages gauche-droite, ville-canton, riche-pauvre, etc. Donc, je ne vois pas le problème de cette unité parce qu'elle n'est pas remise en cause. Sorvillers travaillera toujours avec ses voisins, peu importe s'il y a une frontière quand on a l'antre. La volonté, elle est là. Nous avons toujours été constructifs jusqu'à maintenant et nous espérons aussi le rester. Et les signaux que j'ai reçus de mes collègues des villages voisins sont tout à fait positifs à ce niveau-là. Donc je ne vois pas le problème de cette pseudo, de cette nouvelle frontière, en fait, si de frontière il devait y avoir.
Otto Abegre, il y a la question de la frontière qui, pour les partisans d'un départ dans le canton du Jura, ne compte guère. Hein. La vie va continuer comme avant. Par contre, pour vous, au niveau des finances, ça risque de changer la donne et pas forcément dans le bon sens.
Tout à fait. Ça risque de changer la donne parce que pour la commune, on n'a pas les... Monsieur Bouchat, il dit qu'on a des bonnes relations avec les communes voisines, mais ces relations ne sont pas aussi bonnes que ça actuellement depuis que le conseil municipal a demandé le vote communaliste. Ensuite, il faudra trouver des ententes entre tous ces dicastères qui sont posés. Et là, je pense qu'il y aura pas mal de difficultés dans plusieurs domaines qui vont ressurgir.
Alors, on voulait parler des finances, mais vous continuez sur cette question de l'entente avec les communes environnantes, c'est important. Visiblement, il y a un dossier qui vous inquiète particulièrement, c'est l'école.
L'école m'inquiète beaucoup. Vous avez tous entendu que le canton du Jura ferme 17 classes, ou bien a fermé 17 classes. Eh bien, je me pose beaucoup de questions, ce qu'il adviendra de l'école de Sorvillers. Sorvillers, où nous avons des familles qui envoient leurs enfants à l'école, eh bien, est-ce qu'on pourra, si on rentre dans le canton du Jura, maintenir notre école? Là, il y a une grande parenthèse qui est posée,
Une interrogation importante, Sandro Bouchat, que répondez-vous pour l'avenir de l'école? Est-ce que ce vote est dangereux?
Alors, je dirais non. Le canton du Jura a fermé des classes, oui, mais il n'a pas fermé d'école, à proprement parler. L'école de Sorvillers, elle a toujours eu des effectifs qui se maintenaient, qui donnent des perspectives tout à fait satisfaisantes pour le futur. Et le canton du Jura, c'est engagé à ne pas fermer cette école et je pense qu'on peut tout à fait le croire. D'autre part, le conseil municipal a toujours défendu ardemment cette école. Il n'y a pas de raison qu'il change de stratégie dans le futur. Donc si toute menace, il devrait y avoir de la part du canton du Jura, les autorités feraient tout pour garder cette école, c'est clair. Elle est importante, elle a été reconnue au niveau pédagogique comme excellente, elle a d'excellents résultats, les élèves qui en sortent sont de très bons élèves. Tout ça, c'est reconnu, donc il n'y a aucune raison que ce soit remis en cause.
Au niveau des finances, je le disais, on va cette fois y venir. Au niveau des finances, le changement ne serait pas indolore, selon les opposants, Sandro Bouchat, même si au niveau fiscal, il n'y a pas de différence majeure. Au niveau des assurances maladie ou des plaques d'immatriculation, il y a clairement des inquiétudes.
Oui, c'est clair, mais il faut, ça a été souvent souligné. Il faut voir ça dans le contexte global, c'est-à-dire au 31-12, ce que vous allez réellement payer, ce que vous avez réellement payé sur toute l'année. On ne peut pas être exactement de la même chose, les deux cantons sont différents, ils ont des systèmes tout à fait différents, mais si on regarde dans sa globalité, si on prend tous les impôts, les taxes, etc., on met tout ça dans un même paquet, et on tire une ligne et on regarde si on a une somme positive ou négative à la fin de l'année, il s'avère que l'on a une somme positive dans le canton du Jura. Ça veut dire que le premier, le canton du Jura n'est pas l'enfer fiscal qu'on a bien voulu dire qu'il était pendant de nombreuses années. Et les rapports d'experts qui ont été faits dernièrement, avec des chiffres qui sont les plus exhaustifs et les plus réalistes pour cette région ici à l'heure actuelle, montrent que effectivement, sur sa globalité, le canton du Jura est meilleur marché que le canton de Berne.
Otto Abegre, ça devrait quand même vous rassurer. Si on fait le compte à la fin de l'année, on s'y retrouve en allant dans le Jura. C'est en tout cas ce que disent les partisans d'une séparation du canton de Berne.
Alors écoutez, je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Nous avons reçu ici effectivement tout ménage qui a été distribué hier dans les boîtes aux lettres de Sorvilliers, un papier anonyme d'ailleurs qui n'est pas signé. Et là-dessus, il y a des chiffres. J'ai tout de suite été voir sur Internet les chiffres correspondantes et ça ne correspond pas du tout à ce qui est mentionné sur ce bulletin.
Quelle conclusion vous en tirez ? On ne va pas discuter des chiffres en particulier, mais quelle conclusion vous en tirez ?
Alors, j'en tire la conclusion que lorsqu'on distribue un tout ménage sans le signer, parce qu'il est encore marqué dessus, vous pouvez demander des renseignements, mais à qui ? Quand on doit livrer aux citoyens de Sorvilliers un bulletin qui n'a aucune signature, je me pose bien des questions.
Mais au niveau du porte-monnaie, on est gagnant ou on est perdant si on quitte le canton de Berne ? C'est la question qu'on se pose.
Tout simplement, on est perdant. Il y a une certaine classe de personnes qui paieront peut-être un peu moins d'impôts, mais attention, il manque ici l'adjonction de la caisse maladie. Il manque l'adjonction des plaques de voiture. Simplement pour moi, nous avons 3 véhicules chez moi. Ça me fait simplement 450 francs plus par année pour les plaques. Et puis en plus, la caisse maladie, pour mon épouse et moi, ça se situe vers les 1600 francs par année. Ceci cumulé, eh bien ça se compte.
Sandro Bouchat, le message a l'air difficile à faire passer, même avec des tracts signés, soit-il ou pas signés. Quel argument pour convaincre M. Abegre et d'autres qui craignent de perdre au niveau du porte-monnaie ?
Alors à nouveau, ces chiffres ne tombent pas du ciel. Ils ont été faits calqués sur le rapport d'experts de Moutier qui a été fait là. Je ne sais pas si j'ose demander à M. Abegre son âge et dans quelle catégorie il se classe, mais je pense que sur cette liste-là, il peut très bien voir que ces plaques de voiture et ces assurances sont largement remboursées par l'économie d'impôt qu'il va faire. Donc si on reprend tous ces chiffres ensemble et qu'on les met, qu'on se coule le sac, comme on dit un peu dans la région, à la fin de l'année, il reste quand même un petit bilan positif.
Dernière question à vous deux et rapidement. Moutier a a priori, même si on n'est pas fixé définitivement, a décidé de rejoindre le Jura et ça va être effectif. Est-ce qu'il ne faudrait pas, au niveau de la cohérence de la région, se rapprocher de cette dynamique de la ville-centre qui fait le pas vers le Jura et à qui on promet, à qui le Jura promet aussi de la prospérité ? Ça ne vous fait pas de l'œil, Otto Abegre ? Vous ne pensez pas que Sorvilliers pourrait en tirer profit ?
Non, pas du tout. J'ai beaucoup de mal à encaisser le départ de Moutier. Je suis né dans cette ville, j'ai été élevé dans le village voisin de Roche et je vois partir cette ville de sa cité. Eh bien, Moutier aurait pu venir une ville très importante avec le Grand Val, avec Perfitte, et d'importance dans le canton de Berne et actuellement elle devient une banlieue du canton du Jura et ça me fait mal.
Sandro Bouchat, très rapidement, votre réaction par rapport au sort de Moutier, pour vous c'est un argument de plus pour que Sorvilliers suive ?
Tout à fait, et appeler la deuxième ville du canton du Jura une banlieue, je trouve ça un petit peu fort de café. Pour nous, en ce qui nous concerne, Sorvilliers, c'est un fait. La frontière va se déplacer à 8 km de chez nous. On aura le Jura devant nous et nous, on va se retrouver. Alors, pour le coup, en banlieue du Jura bernois et notamment de Bienne, où le centre de gravité des institutions politiques va gentiment se déplacer. Donc, la perte de Moutier, pour nous, ça signifie qu'on va perdre au niveau de la visibilité, on va disparaître un petit peu des écrans radars. Mm-hmm. Et je trouve un tout petit peu triste que la région ait besoin d'un statut particulier pour se faire entendre du côté de Berne.
Merci merci beaucoup, messieurs, d'être venus brièvement débattre de l'avenir de Sorvilliers, du vote qui a lieu le 17 septembre et qu'on vous fera vivre sur les chaînes de radio RJB et RFJ. Merci à vous, bonne campagne et à bientôt.
Merci, bonne soirée. Merci.
Bonne soirée. C'est tout pour Place Publique. Vous nous retrouvez sur Internet, évidemment. Merci à Yannick Frossard et Sven Borua. À la semaine prochaine, dans un instant, le flash de 19h.
Place Publique.